France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Une actrice peut-elle être inquiétée pour un rôle joué devant la caméra? Ça se passe en Turquie. L'une des actrices de la série française Le Bureau des Légendes se retrouve entendue pour apologie du terrorisme. Explication dans un instant. À suivre encore, quand l'Élysée et Matignon autorisent le groupe Nestlé à commercialiser des eaux en bouteille pourtant non conformes. C'est la suite de nos révélations. Nous verrons comment la patronne du groupe a pu peser sur les décisions prises au plus haut sommet de l'État. La Chine qui répond à Trump et augmente à son tour ses droits de douane, mais c'est pour mieux négocier. Le Rassemblement national qui ne censurera pas le gouvernement, mais tout le monde au RN n'est pas d'accord. Et puis un roi sur l'eau, le roi Jean Le Cam a bouclé ce matin son sixième Vendée Globe historique.
Mieux que le dernier, je crois. Hein. Moi, le dernier, c'était bateau cassé et tout, c'était quand même pas très confortable, on va dire. Bon, il y a trois jours, là, on a eu la chance d'avoir une nuit avec la lune qui te réconcilie avec la vie. Le bateau sur mer plate qui glisse, la lune, pas de mer, etc. Là, pour le coup, c'était magique, quoi.
Voilà pour ces premiers mots il y a quelques minutes. Vous verrez qu'ils étaient nombreux ce matin à l'accueillir au Sable d'Olonne. À partir de 13h30, vous avez entendu ce matin sur Inter les témoignages bouleversants de ces parents qui recherchent leur fille livrée à la prostitution. Les chiffres sont en hausse dans notre pays. Comment réagir? Lénaïgue Le Bail, la chef de l'Office central chargée de la répression de la traite des êtres humains, est avec nous. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, elle était à la CGT, elle est devenue préfet une semaine avec Marie-Line Poulain. Sa vie d'avant lui sert aujourd'hui.
La capacité de dialoguer avec toutes les organisations syndicales, qu'elles soient celles des salariés, celles des employeurs, parce qu'en effet, je les connais.
13h50, c'est la France, le phénomène de la mécanique de rue. Ces voitures que l'on répare en plein air, sur un parking. Explication Cyril Petit, du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, Élodie Gossuin, Jennifer et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Imagine-t-on Jean Gabin en garde à vue pour incitation à la violence après son rôle dans Le Clan des Siciliens, ou encore l'acteur allemand Bruno Ganz visé par une enquête pour apologie de crimes contre l'humanité pour avoir incarné Adolf Hitler. Absurde, c'est pourtant exactement ce qui est arrivé à l'actrice turque Melisa Sözen. Elle a été entendue par la police turque pour avoir joué le rôle d'une combattante kurde. Bonjour Anand Lower.
Bonjour.
Vous êtes à Ankara pour Inter. C'est son rôle, Anne, dans la série française Le Bureau des Légendes qui lui vaut cette enquête.
Oui, Melisa Sözen apparaît dans la saison 3 du Bureau des Légendes qui a été diffusée en 2017. Elle y incarne une combattante kurde en Syrie, recrutée par le renseignement français. Alors à l'époque comme aujourd'hui, ces combattants sont les alliés des Occidentaux, de la France notamment, dans la guerre contre le groupe État islamique. Problème, les YPG, les unités de protection du peuple auxquelles appartient le personnage campé par Melisa Sözen, sont aussi la branche syrienne du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, que la Turquie combat depuis une quarantaine d'années. Et aux yeux de l'État turc, les uns et les autres se valent, ce sont des terroristes. Alors en 2017, la série passe inaperçue en Turquie où elle n'est pas diffusée, mais à l'été dernier, les réseaux sociaux puis certains médias repèrent les épisodes et alors la machine s'emballe. Melisa Sözen est accusée de faire la propagande d'un groupe terroriste. L'actrice dénonce alors une campagne de calomnie et de harcèlement. Alors a-t-elle été rattrapée par cette polémique à retardement? Elle est entendue comme suspecte à son arrivée en Turquie hier. Melisa Sözen aurait assuré avoir ignoré qu'elle portait pour son rôle l'uniforme des YPG. « Je suis quelqu'un qui aime ma patrie, ma nation », c'est ce qu'elle a déclaré avant d'être relâchée pour l'instant.
Merci Anand Lower pour ces informations en direct de Turquie. Peut-on faire confiance à l'État français pour garantir notre sécurité alimentaire? C'est la question qu'on se pose à l'écoute et à la lecture des révélations de la cellule investigation de Radio France ce matin. Cellule qui nous apprend que l'Élysée et Matignon ont autorisé le groupe Nestlé à commercialiser des eaux non conformes à la réglementation et des eaux à risque pour notre santé, tout cela contre l'avis des plus hautes autorités sanitaires du pays, des eaux commercialisées sous les marques Vittel, Contrex, Épar, Perrier et épuisées dans les départements des Vosges et du Gard. Bonjour Marie Dupin.
Bonjour.
Vous enquêtez depuis des mois sur cette affaire, c'est vous qui signez aujourd'hui ces révélations. Ce qui est frappant Marie, c'est la facilité avec laquelle les hauts responsables de Nestlé ont accès en fait à Matignon et
oui,
à l'Élysée.
Effectivement, en fait, avec la cellule d'investigation de Radio France et avec Le Monde, on a eu accès à de très nombreux documents et effectivement, ce qui ressort de ces documents, c'est qu'il y a eu énormément de rendez-vous entre des dirigeants de Nestlé, mais aussi un cabinet de lobbying qui travaille pour Nestlé, et puis les hautes autorités de l'État, des directeurs de cabinet de ministres, leurs conseillers, que ce soit les ministères de la Santé, de l'Industrie, de Matignon, même une rencontre avec le bras droit d'Emmanuel Macron, secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. On sait aussi qu'il y a eu une rencontre entre Nestlé et le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, ministre de l'économie à l'époque. Et puis le conseiller qui pilote tout ce dossier du début à la fin est un conseiller partagé entre Matignon et l'Élysée. Donc il y a beaucoup de rencontres, il y a aussi beaucoup d'échanges par mail.
Des mails, oui, que vous avez pu vous procurer.
Exactement, des mails entre Nestlé et les responsables politiques, les responsables des cabinets. Par exemple, dans un mail de septembre 2022, on voit qu'il y a l'un des conseillers de la Première Ministre, Elisabeth Borne, qui demande au cabinet de François Braun, qui est alors ministre de la Santé, des informations sur un rapport ultra confidentiel. Il demande « Est-ce que tu peux me faire remonter des billes pour faire remonter ces billes à Nestlé ?» Donc Nestlé demande des informations, mais ce n'est pas tout. Nestlé veut obtenir quelque chose de l'État. Elle veut obtenir le droit de continuer à utiliser des filtres proscrits dans ses usines, et elle tente par tous les moyens de convaincre les responsables politiques qu'en fait ces filtres ne posent pas de problème, qu'ils seraient en fait conformes à la réglementation, sauf que non. D'ailleurs, l'agence de sécurité sanitaire le dit bien, le dit très clairement au gouvernement dans un avis de janvier 2023. Elle explique que ces filtres non seulement ne sont pas conformes, mais qu'en plus ils ne garantissent pas la sécurité sanitaire des consommateurs.
Nestlé va obtenir ses autorisations malgré les alertes d'un homme qui alerte inlassablement, c'est Jérôme Salomon, à l'époque directeur général de la Santé. Il est très clair dans ses recommandations.
Ah oui, il est très clair. D'abord, dans un mail qu'il échange avec ses équipes, il parle de chantage de la part de Nestlé. Voilà, donc, et cette information remonte au ministère de la Santé. Il explique que l'entreprise traîne des pieds pour communiquer des informations qui sont nécessaires aux autorités pour faire des tests sur la qualité de l'eau. Et puis, en janvier 2023, c'en est trop, il tape du poing sur la table dans une note transmise au gouvernement. Il indique que, compte tenu des enjeux sanitaires et réglementaires, il propose de suspendre immédiatement l'autorisation d'exploiter les usines d'eau du groupe Nestlé. Il dit aussi très clairement qu'il ne faut pas céder aux demandes de Nestlé, car ces demandes ne sont pas acceptables. La demande de mettre en place des filtres interdits dans les usines, et pourtant c'est ce que le gouvernement va autoriser, une dérogation qui est accordée à Nestlé en février 2023.
Enjeu sanitaire contre enjeu économique. Nestlé emploie plusieurs centaines de salariés dans les deux départements que j'ai cités, les Vosges et le Gard. Cette eau est donc toujours commercialisée. Marie Dupin, c'est vraiment mauvais pour notre santé ?
En fait, la question, c'est la question de la filtration. En fait. Donc, effectivement, Nestlé a obtenu le droit d'utiliser dans ses usines des filtres qui sont proscrits par la réglementation. Oui. Mais en parallèle, puisque le gouvernement sait que ces filtres sont proscrits, le gouvernement a mis en place, mais au bout de plusieurs mois, des contrôles sanitaires renforcés. Donc aujourd'hui, ces filtres qui ne garantissent pas la sécurité sanitaire sont toujours en place. Il y a des contrôles renforcés qui permettent d'être un peu rassurés, mais qui ne sont sans doute pas suffisants, puisque dans un rapport qu'on avait révélé récemment, l'Agence régionale de santé d'Occitanie s'était inquiétée, avait fait part de l'existence encore aujourd'hui d'un risque viral.
Est-ce que c'est la fin de ce bras de fer ? Est-ce que Nestlé est toujours sous le coup d'une fermeture ?
En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Nestlé a déposé de nouvelles demandes d'autorisation d'exploiter pour ses usines, que ce soit ses usines Perrier ou Vittel-Contrex-Épart dans les Vosges, donc Vosges-Occitanie. Et ça, c'est les préfectures qui doivent décider de renouveler ou pas ces autorisations. Et ça doit se faire là, dans les prochaines semaines, en tout cas, premier semestre de cette année.
On verra quels sont les arbitrages et les décisions à ce moment-là. Merci Marie Dupin, cellule investigation de Radio France. Votre enquête est à retrouver sur le site internet de France Inter. Nous étions en Lorraine, dans les Vosges, avec vous, Marie, pour parler de Nestlé. Restons-y avec ce collège de Toul, en Meurthe-et-Moselle, qui n'assure plus les cours depuis hier. L'établissement a été évacué hier matin et depuis, les professeurs exercent leur droit de retrait. Ils s'estiment en danger grave et imminent après la publication par une élève d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Vidéo devenue virale, la jeune fille s'y dit victime d'une injustice de la part de la direction du collège. La principale a déposé plainte pour diffamation. Marie Roussel.
Une vidéo publiée dimanche, vue plus d'un million de fois sur TikTok en à peine 24 heures. L'élève y déroule sa version.
Un autre élève de 3e s'est permis d'envoyer des vidéos et des photos. Vous avez compris.
Elle raconte le harcèlement d'un camarade et dit avoir apporté les faits au CPE puis à ses parents. Son père se rend devant le collège, prend à partie l'élève en cause, défendu par un surveillant d'après la jeune fille. S'ensuit une altercation entre le père et le personnel. La police confirme le dépôt d'une plainte pour menace par le surveillant. Conséquence, la jeune fille est mise à pied, convoquée en conseil de discipline. Une injustice pour l'adolescente qui se présente comme la victime. Elle reçoit de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux. La vidéo est partagée en masse. Cette viralité inquiète l'équipe éducative. Le collège reçoit dès lundi matin des appels malveillants. L'établissement est alors évacué en partie, scénario qui réveille le traumatisme de l'assassinat de Samuel Paty. Comment ne pas y penser pour Fabrice Calderara, le co-secrétaire départemental du SNES-FSU en Meurthe-et-Moselle.
C'est un déchaînement sur les réseaux sociaux qui a abouti à ce drame. Les enseignants, quand il se passe des choses sur les réseaux sociaux actuellement, peuvent se sentir légitimement menacés.
Le secrétaire académique annonce avoir fait un signalement au parquet.
Explication ici, Lorraine, une enquête a été ouverte et selon le recteur de l'académie, l'établissement est aujourd'hui sous haute surveillance. Tandis qu'à Montpellier, les cours ont repris au collège Marcel Pagnol après l'agression de la principale par une élève, c'était vendredi dernier. En soutien, les profs avaient exercé leur droit de retrait hier. Ni l'adolescente ni la chef d'établissement ne sont présents aujourd'hui. Une cellule psychologique d'écoute a été mise en place. Des écoles dans lesquelles les chaises vides sont toujours aussi nombreuses en ce début de mois de février en raison de la grippe. L'épidémie est particulièrement virulente cette année et le dernier bulletin de Santé publique France nous apprend que parmi les personnes hospitalisées, une sur dix est un enfant de moins de 4 ans et qu'il y avait la semaine dernière 40 enfants de moins de 2 ans en réanimation. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
D'où cette question, pourquoi ne pas inciter les parents à faire vacciner leurs enfants?
Officiellement, c'est ce que recommande depuis 2 ans exactement la Haute Autorité de Santé. Sans toutefois rendre obligatoire ce vaccin antigrippe, la HAS préconise donc de vacciner les enfants de 2 à 17 ans tous les hivers. Avis rendu après examen de la tolérance par les enfants des vaccins disponibles et leur efficacité. Les 5 qui existent sur le marché ne présentent pas de contre-indication. Toutefois, la HAS, dans son avis de 2023, évoquait sa préférence pour celui qu'on peut administrer par le nez, Fluence Tetra. Un pchit, c'est rapide, c'est plus simple pour les parents comme pour les enfants, sauf que cette forme n'est pas disponible en France. Et si on vaccine si peu les enfants, c'est que la Haute Autorité de Santé ne semble pas suivie par le ministère de la Santé. Pas de campagne à la télévision, sur les réseaux sociaux ou dans les cabinets de généralistes. 8 parents sur 10 ignorent donc qu'on peut faire vacciner son enfant, selon une enquête de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Pourtant, ce sont bien les petits qui transmettent le plus le virus et qui remplissent les cabinets l'hiver. 30% des consultations pour syndrome grippe sont pour des enfants de moins de 5 ans. La grippe n'est pas une maladie bénigne, elle fait chaque année 9000 morts.
Merci Sophie Becherel. Ce qui nous amène à la journée mondiale contre le cancer. Elle est l'occasion de mesurer les avancées de la médecine. Par exemple, la radiothérapie, qui est l'une des techniques les plus efficaces. Chaque année, 250 000 patients y ont recours, malgré les effets secondaires, et bien qu'elle ne traite pas tous les types de cancers. Un obstacle qu'une nouvelle technique pourrait lever, c'est la radiothérapie flash, grâce à laquelle les rayons frappent plus vite et épargnent les tissus sains. L'Institut Curie espère proposer ce traitement dans quelques années, Victor Delande.
Attaquer une tumeur plus vite et plus fort, voici la découverte de la radiothérapie flash. Et à cette avancée, les chercheurs viennent d'ajouter des électrons de très haute énergie. Le professeur Alain Puisieux, président du directoire de l'Institut Curie.
Ce qui va permettre, en plus d'épargner les tissus sains, de pouvoir atteindre des tumeurs qui sont des tumeurs localisées en profondeur, difficilement accessibles pour une radiothérapie plus conventionnelle. Et donc, on combine à la fois une efficacité sur des tumeurs qui sont difficilement accessibles, tout en épargnant donc les tissus sains.
Une technologie qui pourrait donc réduire les séquelles pour les patients. C'est indispensable pour le futur des malades, insiste le professeur. Gilles Créange, chef du département de radiothérapie de l'Institut Curie.
Même pour des cancers incurables, aujourd'hui on est dans une maladie chronique dans laquelle les patients peuvent vieillir et peuvent avoir des problèmes cardiaques ou autres malgré la présence d'un cancer qui fait que on doit leur permettre de vivre sans séquelles de cette radiothérapie.
Ce projet, financé à hauteur de 35 millions d'euros, pourrait voir le jour dans quelques années. Les premiers essais cliniques pour mesurer les bienfaits de cette radiothérapie révolutionnaire sont prévus pour 2028.
Institut Curie et Commissariat Énergie Atomique pour ces recherches.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Il n'y avait plus de suspense depuis hier et la décision des députés socialistes de ne pas censurer le budget du gouvernement de François Bayrou. La motion de censure déposée par les Insoumis sera donc rejetée demain et le texte adopté sans vote. Mais on attendait quand même de connaître la position du Rassemblement National qui, à l'automne, avait voté la censure de Michel Barnier. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Hier, certains députés RN appelaient à censurer. Finalement, le patron du parti, Jordan Bardella, a tranché ce matin, pas de censure.
Oui, il faut éviter l'incertitude, justifie ce matin Jordan Bardella sur la chaîne CNews, évoquant, je cite, « ces nombreux Français extrêmement inquiets d'une instabilité qui pourrait s'installer dans la durée. Il faut bien un budget », conclut-il. On est loin des discours populistes que nous avait servi le parti juste après la dernière censure contre le parti unique, coalisé dans le seul but de durer, ce sont les mots de Marine Le Pen. Un refrain du tous pourri qu'au RN pourtant tous n'étaient pas prêts à lâcher. Plusieurs cadres, vous l'avez dit ces derniers jours, étaient favorables à une nouvelle censure. Jean-Philippe Tanguy ou le conseiller spécial Philippe Olivier. Il n'y a pas un électeur qui nous demande de la stabilité, confiait récemment ce dernier. Mais au RN souffle des vents contraires. Trois quarts du groupe étaient frileux, affirme un élu. On l'a vu pendant les cérémonies de vœux, ça ne déchaîne plus les passions, dit un autre. La décision est aussi stratégique, espérait jouer sur les deux tableaux, le dégagisme en décembre, la respectabilité en février. Quant au risque de décevoir la base, il est balayé par ce député. C'est la difficulté d'un électorat large désormais. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde.
Décryptage signé Élodie Forêt. Au rayon des protestations contre les choix de budget du gouvernement, le syndicat de police Alliance qui rassemble ses troupes en ce moment devant l'Assemblée nationale et qui dénonce des choix qui, je cite, ne correspondent pas à ses attentes. Message pour le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui précisément s'est joint à cette manifestation il y a quelques minutes. Et puis les syndicats enseignants, eux, demandent à la ministre de l'Éducation le maintien des financements de tous les projets culturels à l'école lancés pour cette année scolaire. Ces projets sont désormais gelés. Je vous parlais du ministère de l'Intérieur. Il a publié ce matin ses chiffres 2024 sur l'immigration. 31 000 étrangers sans papier régularisés l'an dernier, en baisse de 10%. 21 000 ont été expulsés, plus 26%. 336 000 premiers titres de séjour ont été délivrés. C'est une légère hausse, plus 1,8%. Là, ce n'est pas l'immigration qui est au cœur de la brouille, comme avec le Mexique, mais la concurrence avec la Chine. Les États-Unis de Trump ont annoncé le week-end dernier une hausse des droits de douane de 10% vis-à-vis de Pékin. Eh bien, les Chinois ont répondu ce matin. Ils vont taxer davantage le charbon et le gaz naturel liquéfié américain. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes notre correspondant en Chine. Sébastien, c'est une réplique, certes, mais les Chinois auraient pu taper plus fort.
Oui, effectivement, la Chine aurait pu clairement frapper beaucoup plus fort en s'en prenant, par exemple, au soja américain. Des dizaines de milliards de dollars sont en jeu. Les fermiers aux États-Unis auraient subi de lourdes conséquences, mais ce n'est pas le choix qui a été fait ici à Pékin. Le gouvernement a préféré viser des produits qui, certes, sont exportés par les États-Unis vers la Chine, mais sur des montants qui restent relativement limités et en tout cas minoritaires dans le volume global des exportations. Donc, des représailles, oui, pour dire que la Chine ne se laissera pas faire, mais avec une volonté de ne pas trop heurter Donald Trump, parce que ce que veut avant tout Pékin, c'est discuter pour éviter une guerre commerciale de grande ampleur qui ferait de gros dégâts sur l'économie chinoise.
Ça veut dire que les négociations entre les deux parties vont bientôt s'ouvrir ?
Alors, selon Donald Trump, des discussions vont démarrer dans les prochaines 24 heures. La Maison-Blanche a même évoqué un possible appel téléphonique entre Donald Trump et Xi Jinping. Pour le moment, il n'y a pas de confirmation officielle du côté de Pékin.
Merci Sébastien Berriot en direct de Pékin, au Proche-Orient, en Cisjordanie. Un homme a ouvert le feu ce matin sur des soldats israéliens. Deux d'entre eux sont morts. Cet homme a ensuite été abattu. Le camp de réfugiés de Jenin, toujours en Cisjordanie occupé, lui se dirige vers une catastrophe, a dit ce matin l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Tout cela après une vaste opération de l'armée israélienne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est attendu à Washington dans la journée. Premier chef d'État étranger reçu par Donald Trump depuis son élection. Le nouveau pouvoir américain qui a également ordonné le gel temporaire de l'aide au développement. 41 milliards d'euros cette année qui étaient censés financer des programmes humanitaires partout dans le monde. De l'argent bloqué donc, le temps d'écarter les programmes qui favorisent la diversité ou l'avortement. Et parmi les pays concernés, il y a l'Afrique du Sud. C'est le pays le plus touché au monde par le sida. Des cliniques qui venaient en aide aux personnes exposées au VIH ont dû fermer du jour au lendemain. Reportage sur place, Winnie Claré.
Les portes de l'Institut de santé reproductive VITS dans la banlieue populaire du Cap sont closes. Sur une affiche à l'entrée de la clinique, on peut lire « Nous ne sommes plus en mesure de vous accueillir jusqu'à nouvel ordre ».
Où est-ce que je vais aller ?
Viola Scaria, c'est une femme transgenre qui suit un traitement hormonal délivré jusqu'ici par l'établissement.
J'ai été rejetée par ma famille et puis cette clinique a changé ma vie. Alors on me prive de l'endroit où je me sens en sécurité, un endroit où je peux parler à des gens qui me comprennent.
Les quatre cliniques de l'Institut VITS en Afrique du Sud accueillaient les personnes transgenres mais aussi les travailleurs du sexe, fournissant notamment des traitements préventifs contre le VIH et des antirétroviraux pour les séropositifs.
Si on n'a pas ces traitements, on meurt.
Gita November est la fondatrice de Gender Dynamics, une association qui travaille avec l'Institut VITS. Selon elle, l'arrêt de l'aide américaine est avant tout politique.
Ce gel intervient au moment où les attaques contre les personnes transgenres se multiplient, mais ça va bien au-delà. Si on ne peut pas délivrer de traitement contre le VIH, on comptera nos morts par centaines, par milliers.
En dehors de ces cliniques financées très largement par les États-Unis, l'essentiel des traitements contre le VIH est distribué dans les hôpitaux publics sud-africains, des hôpitaux souvent fuis par la communauté LGBT qui y dénonce des discriminations.
Winnie Claré en Afrique du Sud pour Inter. L'arrêt de cette aide américaine à travers le monde aura aussi des conséquences en Afghanistan, nous dit l'ONU ce matin. Elle pourrait causer 1200 décès maternels supplémentaires dans ce pays d'ici 2028. Il est détenu en Indonésie depuis 19 ans, condamné pour trafic de drogue, même s'il a toujours clamé son innocence. Le Français Serge Atlaoui est sorti de prison ce matin à Jakarta, direction l'aéroport. Il doit s'envoler vers la France dans la soirée. Il est attendu à Paris demain matin. Il sera ensuite conduit dans un établissement pénitentiaire, selon le parquet français. Leur enlèvement avait mobilisé il y a deux semaines les forces de l'ordre pendant près de 48 heures. C'était dans le département du Cher. Le pionnier des crypto-monnaies, David Ballan, et sa compagne avaient été séquestrés par des malfaiteurs. Ils avaient même coupé un doigt de l'entrepreneur avant de les relâcher tous deux. Deux jours plus tard, l'associé et ami de David Ballan, Éric Larchevêque, l'homme qui a été sollicité par les ravisseurs pour payer la rançon, s'exprime aujourd'hui et il donne des nouvelles des deux victimes.
Ils ont été fortement secoués, choqués. C'était très difficile pour eux, mais aujourd'hui, ils sont en sécurité avec leurs proches et ça va. Ils sont en train de se soigner, de se reconstruire pour passer cet événement et essayer de passer à autre chose. Mais dans l'ensemble, ça va, bien sûr.
C'est à vous que les ravisseurs avaient demandé une rançon, c'est ça ?
Oui, tout à fait. J'ai reçu un message sur mon téléphone avec des vidéos assez claires montrant que David avait été capturé et menacé et réclamé une forte rançon. Mmh. Donc j'ai immédiatement appelé la gendarmerie. Puis ensuite, on est parti sur une quarantaine d'heures en fait de cauchemar.
Il y a même une rumeur selon laquelle c'est vous qui aviez été enlevé.
Oui, voilà, un entrepreneur a été enlevé à Vierzon, donc forcément, on a pensé à moi. Moi, j'étais astreint au silence, puisque je m'occupais de la négociation. Je ne pouvais pas sortir et faire une conférence de presse ou même rien dire du tout. Donc, il y a eu une rumeur, effectivement. À un moment, tout le monde pensait que c'était moi. Mon téléphone a explosé. J'ai eu beaucoup d'appels. Donc oui, ça a été un moment compliqué, sur un moment déjà assez compliqué. Ouais.
Éric Larchevêque, le patron de Ledger, au micro de Céline Baydarcourt. L'homme qui a été grièvement blessé par balle hier à la gare d'Austerlitz après avoir gravé des croix gammées, blessé par balle à la suite d'une intervention de police. Cet homme est décédé ce matin des suites de ses blessures et l'agent de la sûreté ferroviaire qui a tiré a finalement été relâché sans poursuite. Information que nous donne le parquet ce matin. Le groupe allemand Aldi est dans le collimateur. En tout cas, sa centrale logistique de Beaune, c'est en Côte d'Or, une centrale infestée selon le syndicat CGT, de rats et de souris, à tel point que vendredi dernier, 45 salariés du site ont fait valoir leur droit de retrait. Thomas Nougaillon, des magasins Aldi seraient également concernés par ce manque de propreté.
Selon le syndicat, photo à l'appui, on a retrouvé des cadavres de souris, des aliments grignotés, des excréments, et ça concernerait 78 magasins du groupe Aldi en Bourgogne-Franche-Comté et dans l'Allier. Et même si la direction a fait passer une société de nettoyage, Loïc Négrit de la CGT demande la désinfection totale de la centrale logistique de Beaune.
Parce que là, ils ont fait du nettoyage derrière des palettes, mais pour l'instant, les souris ne sont pas éliminées.
et tout n'est pas nettoyé correctement en plus. Donc j'espère et je croise vraiment fortement les doigts pour qu'il n'y ait pas de gens malades. Voilà, on a la fille qui a fait une allergie, on en a un deuxième qui ne veut pas en parler et pas aller chez le médecin, mais qui est intérimaire et le jour où il est obligé à faire le ménage, qui a lui aussi eu des plaques sur les bras en étant exposé.
Et des souris particulièrement nombreuses et visiblement peu farouches.
Ah ben, j'ai une vidéo qu'un collègue a fait où il filme la souris qui passe devant et il l'appelle comme un chat ou un chien et il fait... Et la souris, elle vient jusqu'à son pied. Donc ça démontre qu'elles vivent depuis longtemps ici et qu'elles n'ont pas peur.
Ce syndicaliste CGT explique qu'il pense avant tout à la santé des salariés et des consommateurs. Cette alerte sanitaire n'aurait en tout cas rien à voir avec la grève de la semaine dernière concernant les salaires. D'ailleurs, avant de lancer ce mouvement de grogne, le syndicat aurait attendu que ces négociations annuelles obligatoires soient closes.
Explication de nos confrères d'ici Bourgogne. Il n'est ni le plus rapide ni le plus médiatique des skippers du Vendée Globe, mais il a mobilisé les foules ce matin pour son arrivée au Sable d'Olonne et pour sa remontée du chenal que vous avez pu suivre. Bonjour Angeline Demeunck.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Aux côtés de Jean Le Cam ce matin, le skipper finistérien qui a donc bouclé en 85 jours, 15h51, son 6e Vendée Globe en 20e position. Vous allez nous raconter dans un instant cette remontée du chenal parce qu'il y a fait beaucoup de monde ce matin au Sable d'Olonne. On va d'abord écouter Jean Le Cam, le roi Jean, nous dire à quel point il termine ce tour du monde éprouvé.
Ça c'est à chaque fois pareil, hein. Celui qui dit qu'il n'a jamais eu ras-le-bol sur un Vendée Globe, alors là pour le coup, il y a des menteurs sur mais là c'est sûr, hein, parce que c'est vrai que c'est bien quand ça s'arrête aussi. Hein. Là, quand vous êtes monté trois fois dans le mât, tu regardes en haut du mât, tu te dis putain, je veux pas y aller, je veux pas y aller, ben, il faut que tu y ailles, et puis c'est tout. Bon, t'es content quand t'es redescendu, quoi, tu vois. Donc ça veut bien dire que t'es dans des situations extrêmes où t'es obligé de faire face. C'est des histoires aussi, des histoires qui arrivent d'ailleurs pas que à nous, hein, au Vendée Globe, parce que je pense que ça arrive à tout le monde au quotidien. Moi, je dis toujours, les emmerdes, ça vole en escadrille. On va essayer de stopper la fuite en avant des emmerdes.
85 jours autour du monde et il n'a rien perdu de sa verve. Angeline Demeunck, vous avez pu le constater, vous étiez à ses côtés dans la remontée du chenal. Et il y avait plusieurs centaines de personnes ce matin pour l'accueillir au Sable d'Olonne, un mardi matin dans le froid.
Oui, une foule massée le long du chenal. Jean Le Cam lui-même n'en revenait pas, lui qui arrive trois semaines après le leader, Charlie Darlin. Surtout que le marin a passé la ligne d'arrivée à 4h53 ce matin. Il sortait juste d'une petite sieste. Le doyen de la course, petits yeux, très tiré, a été rapidement tiré de sa torpeur. Il s'est installé en équilibre à l'avant de son bateau, des fumigènes dans les mains. Un Jean Le Cam un peu sur la réserve au départ, peut-être pas bien réveillé encore, tout simplement, et qui s'est véritablement animé à l'entrée du port avec un feu d'artifice surprise orchestrée par l'un de ses amis. Première émotion visible, puis l'arrivée au ponton sur la musique choisie avant le départ, Modern Love de Zao de Sagazan. Et là, on retrouve le Jean Le Cam qu'on connaît, bras en l'air, yeux fermés, en train de se déhancher. Il a ouvert le magnum de champagne pour en arroser la foule, mais sans y toucher, il n'aime pas ça. Là, il termine ce qu'il appelle sa spirale d'arrivée. Conférence de presse, énormément de monde dans l'espace presse pour apercevoir Jean Le Cam, interview. Et cet après-midi, le programme, c'est bain, sieste et puis évidemment ce soir la fête. Et il l'a dit, il a l'intention d'aller se coucher en dernier.
Voilà, donc il va veiller Jean Le Cam, il lui reste encore un peu de force. Merci Angeline Demeunck, ici Braise Izel, de nous avoir raconté cette entrée triomphale ce matin du roi Jean au Sable d'Olonne, qui est arrivée juste après Isabelle Joschke, qu'on salue également, de la 19e place pour elle, et 13 minutes seulement devant le navigateur américano-néo-zélandais Conrad Coleman, qui est donc, vous avez suivi, 21e, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, comment lutter contre la prostitution des mineurs, aller chercher les jeunes filles quand elles sont dans les filets des proxénètes, les convaincre parfois. La commissaire chargée de la lutte contre ce phénomène est avec nous, 01 45 24 7000, pour vos questions et témoignages. 13h45, notre feuilleton avec Marilyn Poulain, syndicaliste CGT devenue préfète à l'égalité des chances. Nous sommes en Alsace. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit, du journal Ouest France et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien Jérôme, de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique à Décines dans le Rhône, en passant par Saint-Georges, les Baillargeaux dans la Vienne, je vous parle de garage automobile alternatif, solidaire ou collaboratif.
Nous allons réparer notre voiture à moins cher grâce à vous aujourd'hui, Cyril. Et avec vous, Frédéric, une personnalité bien connue qui est animatrice.
Animatrice radio, animatrice télé,
oui,
il s'agit d'Élodie Gossouin, qu'on connaît aussi pour avoir été Miss France et Miss Europe en 2001. Et avec elle, c'est une chanson de Jennifer que nous écouterons, Ma Révolution. C'est pas très souvent qu'on entend les chansons de Jennifer sur France Inter, je crois.
Non, mais on l'a reçue très récemment.
Effectivement.
Dans C'est une chanson. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Je vous présente mon chien, Java. C'est un gourmand et un voleur de pantoufles. En plus, il prend toute la place sur le lit et il ronfle plus que moi. Ah, il me rend fou. Mais fou d'amour. Malheureusement, tous les animaux ne sont pas aimés comme Java. En transmettant une partie de votre patrimoine à la Fondation 30 millions d'amis, vous nous permettez de sauver, recueillir et soigner des milliers d'animaux maltraités. Demandez votre brochure auprès de Clémence sur leg.30millionsdamis.fr.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps calme, nuageux au nord.
Oui, au nord de la Loire, jusqu'au nord-est et au Lyonnais, il faut encore composer avec cette grisaille. Alors elle persiste, hein, de la Lorraine et de la plaine d'Alsace vers le Lyonnais. Des éclaircies tentent leur chance quand même plus à l'ouest, ça sera parfois difficile. Et puis on a une perturbation qui apporte un ciel nuageux sur le nord-ouest avec quelques gouttes et du vent sur la Bretagne. En descendant vers le sud, là c'est du soleil, seules quelques grisailles peuvent résister vers la Garonne, mais vraiment très ponctuellement. Les températures ressemblent beaucoup à celles d'hier, elles restent timides sous les nuages bas tenaces, mais plus clémente sous le soleil. Comptez 2 à 8 degrés sur un grand quart nord-est jusqu'au Lyonnais, 9 à 14 en allant vers l'ouest et le sud et jusqu'à 16 à 17 en Méditerranée ou au Pays Basque. Demain, encore des gelées, pas mal de nuages au nord et attention, hein, risque de verglas le matin vers Champagne-Ardenne, soyez prudents sur les routes. Et puis en descendant vers le sud, on aura davantage de soleil, mais après la grisaille du matin.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Léna Iglebaille.
Bonjour Monsieur Cadet.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes commissaire de police, vous êtes la chef de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains et vous êtes là pour nous parler d'un phénomène qui est en très forte augmentation ces dernières années dans notre pays. C'est celui de la prostitution des mineurs, surtout des filles. Elles sont entre 10 et 15 000 dans notre pays, chiffre effarant qui a été multiplié par 10. En 10 ans, vous tentez d'endiguer ce phénomène en interpellant les proxénètes. On va en parler ensemble. Les associations aussi travaille un département par département pour venir en aide aux familles, accompagner les enfants, car on parle d'enfants qui ont été victimes et on va aussi leur donner la parole. Nous serons avec une association toulousaine dans une minute. 01 45 24 7000. Pour vos questions, vous passez également via l'application France Inter. Léna Iglebaille, je reviens sur ce chiffre. Multiplication par 10 en 10 ans de ce chiffre des mineurs qui subissent cette prostitution. C'est l'outil numérique, ce sont les réseaux sociaux qui sont responsables et qui permettent la prise de contrôle finalement de ces jeunes filles ?
On a effectivement une évolution assez importante de l'exploitation des mineurs qui sont en situation de prostitution depuis une dizaine d'années. C'est un phénomène qui est accentué par les réseaux sociaux, l'outil numérique. C'est valable d'ailleurs aussi pour la prostitution des majeurs.
Oui.
Aujourd'hui, on a une dématérialisation vraiment de toutes les étapes de cette exploitation. Le recrutement se passe en ligne, la mise en relation avec les clients aussi. Le contrôle des proxénètes sur les victimes se fait aussi via ces outils numériques. Les victimes doivent rendre compte en permanence, même si les proxénètes ne sont pas sur place, de l'activité qu'elles subissent, du nombre de passes qu'elles doivent faire par jour.
Donc elles sont sous contrôle, elles sont sous emprise avec ces outils numériques en fait.
On a une emprise évidemment psychologique, mais on a une forme aussi d'emprise numérique via ces réseaux sociaux et via ces messageries cryptées.
Des victimes qui peuvent être très jeunes, 12, 13, 14 ans.
On a des victimes, alors dans la prostitution des mineurs, dans l'exploitation de cette prostitution, on a des victimes de plus en plus jeunes, effectivement. La majorité ont quand même autour de 15 à 17 ans, mais on a de plus en plus de dossiers dans lesquels on a des victimes de 12-13 ans.
Alors, on a entendu ce matin sur France Inter l'enquête de Delphine Evenou, ses témoignages, notamment celui de cette mère de famille dont la fille a été enlevée en pleine rue et qui ensuite a été prostituée. C'est un cas exceptionnel, Léna Aiglebaille. Comment ces jeunes filles, la plupart du temps, sont-elles entraînées, sont-elles attirées ?
Effectivement, le cas qui a été présenté ce matin reste un cas exceptionnel, une affaire particulièrement dramatique. On a de nombreux modes opératoires.
Je précise que cette jeune fille a été retrouvée, hein, au final.
Oui, tout à fait. On a de nombreux modes opératoires qui sont mis en œuvre par les organisations criminelles, par les proxénètes, pour mettre sous emprise des victimes, les faire entrer dans un engrenage prostitutionnel. On a un phénomène,
comment
en fait. On a plein de possibilités, plein de modes opératoires qui peuvent être mis en œuvre. On a évidemment cette approche via les réseaux sociaux, via Internet, qui favorise la mauvaise rencontre numérique aujourd'hui, plus difficile à détecter forcément.
Mais ça veut dire des proxénètes qui vont sur les réseaux sociaux, qui draguent, qui prennent contact avec des jeunes filles, au bout d'un moment, qui les attirent.
Voilà,
on leur donne des rendez-vous peut-être.
On a plein de possibilités. On a des victimes qui vont être en contact avec un futur proxénète dans une relation qui commence par être parfois une relation affective à distance. Des jeunes filles qui vont se retrouver sous emprise de cette façon-là, qui vont être emmenées dans une forme d'engrenage. Il peut y avoir l'envoi de vidéos, de photos nues par exemple, qui va ensuite engendrer une forme de dépendance ou un engrenage avec un chantage, en fait.
Une jeune fille qui envoie une photo un peu dénudée à un homme qui est de l'autre côté de l'écran et qui lui dit « j'ai ta photo » et qui la fait chanter ensuite.
Tout à fait. Ouais. Et donc qui peut ensuite la forcer à être prostituée. On a des victimes qui peuvent être recrutées par des intermédiaires qu'elles pensent être de confiance, y compris physiquement, parfois dans les foyers. D'aide sociale à l'enfance. Donc on a des intermédiaires qui peuvent être...
Ça, c'est du recrutement physique.
On a aussi du recrutement physique, effectivement.
Mais dans les foyers, comment ça se passe, dans les foyers de l'ASE ?
On a des personnes ou des jeunes filles placées dans ces foyers qui peuvent être elles-mêmes en situation de prostitution ou qui vont devenir des intermédiaires pour des proxénètes, qui vont s'occuper du recrutement, qui vont trouver dans cette forme de recrutement une façon pour elles-mêmes de sortir de l'exploitation, en fait, qui vont être obligées par les proxénètes d'aller recruter d'autres victimes pour elles-mêmes pouvoir arrêter l'activité prostitutionnelle. Donc on a un certain nombre de modes opératoires de ce type qui peuvent être particulièrement extrêmes, rarement heureusement, mais comme ça a été le cas dans les affaires qui ont été présentées ce matin.
Vous parlez de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, ça veut dire que la plupart des victimes ont un itinéraire difficile, placées souvent, ou ont été victimes elles-mêmes d'agressions sexuelles déjà dans leur enfance ?
Alors, dans le panorama des victimes auxquelles on a affaire dans les dossiers qui sont traités par les services de police et de gendarmerie, on a effectivement une majorité de jeunes filles. Il y a aussi de l'exploitation des jeunes garçons, mais ce sont quand même majoritairement de jeunes filles qui sont en rupture souvent sociale, scolaire, familiale, qui peuvent être placées. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ce type de phénomène, ce type d'engrenage, ça peut arriver à tout le monde. Et donc, on a aussi de plus en plus de victimes qui viennent vraiment de tous les milieux sociaux, également parfois de milieux favorisés, avec des parents présents, et qui peuvent se retrouver dans ce type d'engrenage.
Emmanuel Vrignot est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'antenne de l'Amicale du NID31, qui est une association qui lutte notamment contre le proxénétisme et la prostitution de ces jeunes filles. Vous avez constaté, vous aussi, à l'échelle de ce département de la Haute-Garonne, une explosion du nombre de cas ces dernières années ?
Alors oui, tout à fait. Alors parce que d'abord ce service, il existe depuis 2 ans, mais un travail avait été mené en amont et qui avait déjà repéré dans une phase de diagnostic 70 jeunes et qu'actuellement sur le dispositif que nous portons, on accompagne 30 jeunes actuellement en situation de prostitution et 80 jeunes repérés en orientation auprès desquels on a fait un étayage auprès de professionnels qui nous ont fait part de la situation de 80 jeunes en situation de prostitution. Donc effectivement, c'est effectivement un phénomène qui existe sur le territoire de la Haute-Garonne.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ces jeunes quand vous rentrez en contact avec eux et que vous essayez de les sortir ?
Alors, ces jeunes, ils sont au départ, on rencontre d'abord, la phase d'orientation est importante puisqu'on a un étayage qui est fait auprès des professionnels qui repèrent ces jeunes-là parce que nous, on n'est pas en direct en lien avec ces jeunes. Par contre, on travaille avec l'ensemble des partenaires qui sont en lien avec ces jeunes et donc les jeunes qui arrivent chez nous le font de manière volontaire et nous connaissent au travers de la problématique spécifique que l'on traite, à savoir la situation de prostitution dans laquelle ils sont. Et auquel cas, quand ils arrivent chez nous et qu'ils entrent en contact avec nous, c'est pour déposer leur situation de prostitution. Et donc, il y a très naturellement, parce qu'ils connaissent cet espace-là, parce qu'ils nous font confiance et parce qu'ils savent que l'on va, qu'on est en capacité de recevoir leur récit, ils vont déposer leur situation très, très facilement.
Merci Emmanuel Vrignaud d'avoir été avec nous dans ce 13-14, de nous livrer ce témoignage. Et on le dit aux parents, les Néglebaï, il faut déposer plainte, il faut vous solliciter. Ils peuvent aussi trouver soutien auprès des associations comme celle-ci.
Tout à fait. En cas de situation problématique, évidemment, en cas de détection d'une situation de prostitution, d'exploitation sexuelle d'un mineur, il faut déposer plainte, il faut se rendre au service de police ou de gendarmerie le plus proche pour signaler les faits, pour qu'une enquête puisse être ouverte. Nous travaillons aussi côté police et gendarmerie en lien étroit avec des associations pour qu'il y ait un suivi, un accompagnement précis et sur le long terme en fait de ces victimes qui ne se considèrent généralement pas comme victimes et c'est une des difficultés de ces dossiers.
C'est-à-dire que vous disent ces jeunes filles quand vous les entendez et que vous leur dites mais là tu as des relations sexuelles tarifées et il y a quelqu'un qui prend ton argent, c'est de la prostitution.
Le terme de prostitution est généralement peu utilisé par ces victimes et par ces proxénètes. On est dans un contexte, en fait, d'une forme de glamourisation de la prostitution dans notre société. Et on utilise, en tout cas, ces jeunes gens utilisent plutôt des termes comme ceux d'escorting, de michetonnage. C'est plus sexy, c'est moins infamant, c'est plus tendance. Et donc, on a des victimes qui ne se considèrent généralement pas comme victimes parce qu'on est dans des mécanismes d'emprise, de vulnérabilité, d'exploitation, de cette vulnérabilité qui est d'ailleurs intrinsèque en général à l'adolescence. Et dans des profils aussi de proxénètes qui sont dans une démarche... ce qu'ils nous disent évidemment, de protection, d'aide et d'assistance à ces jeunes filles qui sont en réalité exploitées.
Et la réalité est tout autre. On l'a entendu bien ce sûr. Matin dans le reportage de France Inter avec des jeunes filles qui sont dans des états terribles lorsque les parents parviennent à les retrouver ou quand vous parvenez à les en sortir.
C'est toute la difficulté. En fait, cette emprise psychologique, elle est particulièrement forte. Elle nécessite un temps assez long pour que les victimes puissent se rendre compte de la situation dans laquelle elles sont et puissent même être en mesure de témoigner de ce qu'elles ont subi.
Mathieu nous appelle du département de la Manche. Bonjour Mathieu.
Bonjour à toutes les équipes. Merci France Inter de prendre ma question.
Nous vous écoutons. Nous vous écoutons Mathieu.
Ah pardon, excusez-moi. La question est double, elle est courte mais elle est peut-être un peu incisive. Tout d'abord, comment est-ce qu'on fait pour former les policiers et le personnel judiciaire au recueil de la parole de ces victimes ? Et est-ce qu'il est besoin d'aménager ou de modifier le dispositif législatif qui lui correspond ? Merci beaucoup.
Merci Mathieu pour votre question. Léna Iglebaille.
Bonjour Mathieu, merci pour vos questions. Le service que je dirige, qui est donc un service de police judiciaire centrale qui coordonne la lutte contre l'exploitation de la prostitution d'autrui en France, met en place justement des formations spécifiques pour les policiers et les gendarmes qui travaillent sur ces sujets. Dans ces formations, il y a une partie qui est dédiée à la question de l'audition des victimes, en lien d'ailleurs avec des associations, puisqu'on travaille de façon étroite avec des associations spécialisées. Donc, on met en place des formations, on met en place aussi des outils d'aide à l'enquête à destination des policiers et des gendarmes qui travaillent sur ces dossiers, des modèles d'audition, par exemple, qui sont à leur disposition au quotidien pour les aider à travailler sur ces sujets. Concernant votre deuxième question et l'aménagement législatif, on a une loi depuis 2016 en France qui est une loi qui a renforcé la prise en compte des victimes de prostitution. Là, on ne parle pas seulement des victimes mineures, mais de l'ensemble des victimes de proxénétisme et de traite. Et une loi qui pénalise le client. C'est aussi un des axes de travail de la police et de la gendarmerie, lutter contre la demande et donc travailler contre les clients qui favorisent évidemment ce système.
Système qui se développe, on l'a dit, en ligne avec une prostitution qui a lieu aussi, non pas dans la rue, mais dans des locations de type Airbnb, ce qui complique votre travail aussi.
Tout à fait. Les enquêtes sont de plus en plus difficiles à mener parce que les victimes sont de plus en plus invisibles, à la fois pour les forces de l'ordre, mais aussi pour les voisins, pour les associations, pour tous les acteurs qui peuvent être amenés à apporter leur pierre à cette lutte contre le proxénétisme. On a une vraie évolution depuis quelques années, notamment depuis la crise sanitaire, avec ce que j'appelais tout à l'heure la dématérialisation du proxénétisme. On a de moins en moins de prostitution sur la voie publique. Aujourd'hui, la prostitution, elle est logée, c'est-à-dire qu'elle a lieu dans des espaces privés, fermés, qui sont essentiellement aujourd'hui des hôtels ou plus particulièrement des logements loués pour une courte durée sur des plateformes en ligne.
Et dont les propriétaires peuvent être vigilants.
Alors,
aussi,
tout à fait, les propriétaires peuvent être vigilants. Je rappelle que le fait de mettre à disposition un lieu dans lequel va s'exercer la prostitution, ça, c'est du proxénétisme. Donc, si ces propriétaires sont conscients de l'activité qu'il y a, ils peuvent être poursuivis. En revanche, s'ils détectent cette situation, là aussi, on les invite à signaler les faits aux forces de l'ordre.
Merci à vous, Léna Iglebaille, chef de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le numéro de téléphone, la plateforme d'écoute téléphonique très importante dédiée à la prostitution des mineurs, c'est le 119, 13h45 sur Inter. Notre feuilleton. Nous passons la semaine à Strasbourg en compagnie de Marilyn Poulain, préfète déléguée à l'égalité des chances. Hier, elle nous a raconté son parcours de la direction nationale de la CGT à la préfectorale. Aujourd'hui, nous la suivons sur le terrain, dans le quartier du Neuf. Visite sur le thème de l'emploi. Ça change quoi pour un préfet d'avoir été syndicaliste ?
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous allez bien ?
On se retrouve au centre socioculturel Ziegelwasser à quartier du Neuf. Et donc on va rejoindre l'équipe du DACIP. Donc c'est un dispositif d'accompagnement des personnes très éloignées de l'emploi. Et on a financé une expérimentation qui est spécifiquement axée sur les femmes.
Je t'ai déjà vu.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Linda.
Patrick Roger, je suis moi-même gérant chef d'entreprise. Je suis également membre du conseil d'administration du MEDEF au niveau Alsace, au niveau également du Grand Est.
Vous venez d'assister à une réunion sur le thème de l'emploi au féminin avec la préfète à l'égalité des chances, qui a elle-même un passé syndical, mais du côté de la CGT. Très sincèrement, la première fois que vous l'avez vue dans votre paysage, qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
J'ai aucune inquiétude, j'ai pas d'a priori par rapport aux gens, jamais. Et je pense qu'au contraire, les chefs d'entreprise estiment que c'est quelqu'un d'assez remarquable et je n'écoute que des choses positives sur elle. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui construit avec beaucoup d'énergie positive, avec le sourire et tout en étant dans son rôle de préfet et son rôle de patron d'État local.
Cette ancienne vie, elle me permet d'avoir la capacité de dialoguer avec toutes les organisations syndicales, qu'elles soient celles des salariés, celles des employeurs, parce qu'en effet, je les connais. Donc en effet, ça me donne des avantages et même des billes pour travailler à la réflexion sur l'emploi, sur la formation professionnelle et sur l'implication des uns et des autres d'ailleurs, qu'on soit du côté
employeur ou salarié. Et donc c'est, je pense, plutôt une richesse pour ce poste. Ça nous remplit quand même d'espoir de voir qu'un projet comme ça qu'on finance, déjà vous permette, vous, de vous sentir plus forte, plus consciente en vous.
Ah mais jamais, et jamais j'aurais pensé un jour créer mon entreprise. Mais alors jamais de la vie, je me suis dit, bah non, même pas en rêve, quoi. Alors que là, maintenant, je suis dedans.
C'est vrai qu'il y a quelques mois, on s'est vus. C'est vrai que... on n'était pas dans la même situation, non, exactement. Vous étiez... oui, tout à fait. Oui, je me souviens, vous étiez vraiment situation de souffrance, quoi.
Justement, parler d'emploi avec des personnes un peu en difficulté, ça vous ramène à ce que vous faisiez avant. Ça vous manque ?
Bien sûr qu'on peut avoir des moments de nostalgie par rapport à ce qu'on a vécu. Je suis très attachée à d'anciens camarades de la CGT et au combat que j'ai pu mener et accompagner. Mais je suis heureuse aussi dans les fonctions que j'exerce aujourd'hui parce que c'est différent et c'est une autre manière de pouvoir changer la vie des gens et améliorer la vie des gens.
Si vous avez quitté la CGT, c'est notamment pour des problèmes de sexisme, de machisme. Quel regard aujourd'hui vous portez sur ce syndicat qui est aujourd'hui dirigé par une femme ? Autre grande centrale également, la CFDT, dirigée par une femme.
On a les deux plus grandes organisations syndicales de notre pays qui sont dirigées par deux femmes, qui sont des femmes brillantes, qui ont elles-mêmes porté des vrais combats sur la question de l'égalité femmes-hommes. Après, je suis aujourd'hui là où je suis, donc je ne vais pas retourner à la CGT. Et je pense que c'est un signal qui correspond plus au moment que nous vivons. Il était temps.
Marilyn Poulain avec Cécile Bidot en Alsace toute cette semaine. Troisième épisode demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50. Le mardi, Cyril Petit du journal Ouest France vient nous raconter ses petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de garage automobile, pas comme les autres.
Et on roule Jérôme jusqu'à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique avec Ouest France. Je vous emmène dans un garage associatif et solidaire qui vient de fêter ses 2 ans. Son nom, Repart, avec un double sens. Ici, on répare les véhicules et on repart mieux sur la route, voire dans la vie, car la voiture est souvent indispensable à l'insertion, à l'emploi, au lien social. Ainsi, par exemple, ce garage propose 2 tarifs de main-d'œuvre. L'un assez classique, dit solidaire à 78 euros TTC l'heure. L'autre, réservé aux bénéficiaires en difficulté, défie toute concurrence, 33 euros TTC de l'heure. Rappelons, Jérôme, que selon différentes études, le coût moyen d'entretien annuel d'une voiture varie de 800 à 1600 euros. Nous avons 30% de clients solidaires et 70% de bénéficiaires, m'a indiqué Christian Pourias, le cofondateur de Repart. Le garage propose d'autres services comme la vente à prix très bas ou la location de véhicules donnés puis retapés. Elle aide aussi dans la recherche de financement. On est débordé, confie le bénévole, dont l'association compte aujourd'hui 1800 adhérents.
Ces garages sont nombreux, Cyril ?
Il n'y a pas de chiffre officiel, mais j'en ai trouvé au moins 120 et ça progresse. Exemple, l'association Solidar Auto s'apprête à ouvrir un nouvel établissement à Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret. Dans la Vienne, à Saint-Georges, les Baillargeaux Soligo 86 veut lancer un service de location à petit prix pour les foyers à faible revenu. Alors, en général, les prestations solidaires de ces garages sont ouvertes aux personnes ayant un quotient familial inférieur à 900 ou 1000 euros. Ainsi, à Décines, près de Lyon, Jennifer est sortie de la panade, dit-elle au Progrès. Elle a pu acheter une voiture en parfait état pour moins de 2000 euros. Mais ne nions pas, Jérôme, que certains garages solidaires sont en difficulté. Par exemple, à Gaillac dans le Tarn ou à Hérouville dans le Calvados, quand il manque de financement, de dons ou même de demandes.
Et il y a une autre tendance qui émerge, Cyril, c'est celle du self-garage.
Ou garage collaboratif. On en compte plusieurs dizaines en France. Le principe, chacun vient y réparer soi-même son automobile avec ses propres pièces de rechange. Le matériel et les outils sont mis à disposition contre paiement. Au self-garage qui vient d'ouvrir à Seclin dans le Nord, c'est 10 euros par heure, 25 euros pour accéder au pont de levage. À d'autres endroits, on peut aussi se faire aider par un réparateur qui s'y connaît. Facturation moyenne, 25 euros de l'heure. Ainsi, on met davantage les mains dans le cambouis, mais moins au portefeuille, Jérôme.
Et un autre phénomène a vu le jour, Cyril, mais celui-ci est illégal.
Oui, illégal, Jérôme. Certains l'appellent mécanique sauvage, d'autres mécanique de rue. Il s'agit de mécaniciens qui exercent de manière illégale à ciel ouvert, souvent dans des quartiers populaires. J'ai régulièrement recours à eux, confie à Ouest France Cadi, 39 ans, une habitante de Grigny dans l'Essonne. C'est illégal et insalubre, mais ça arrange beaucoup de monde. Au garage, ça me coûterait trop cher. Alors, le maire Philippe Rio témoigne. J'ai toujours connu des voisins qui réparaient des voitures, mais c'est devenu ingérable. Les mécaniciens et les clients n'habitent pas forcément Grigny. Ils prennent de nombreuses places de parking. Cela crée aussi de la pollution avec de l'huile de vidange jetée dans les égouts. Alors, le maire tente bien de réduire le phénomène par de la répression, mais il conclut, tant qu'il y a une clientèle, il y aura toujours des personnes qui feront ça.
Merci Cyril Petit du journal Ouest-France. Vous savez que le garage, c'est un style musical aussi bien connu. Et ça nous amène à C'est une chanson. La musique, c'est votre rayon. Et à votre micro aujourd'hui, on retrouve Frédéric Pommier, l'animatrice Élodie Gossoin.
Animatrice de télévision et radio, ancienne Miss France et Miss Europe, elle prête aujourd'hui sa voix au nouveau spectacle d'Holiday on Ice, en tournée dans toute la France à partir de vendredi. Et c'est de la chanteuse Jennifer qu'Élodie Gossoin a souhaité me parler.
C'est assez étrange, mais j'ai l'impression avec Jennifer, et sans prétention aucune, qu'on a des chemins parallèles qui se sont parfois croisés. Jennifer a surgi en 2001 avec la première saison de la Starac, et c'est mon année de Miss France. Donc c'est la même année où on s'est retrouvés propulsés sous les feux des projecteurs de façon assez instantanée, voire violente, parce qu'il faut le gérer aussi. Et du coup, j'ai eu l'impression de renaître en même temps qu'elle. Et donc j'ai suivi son parcours parce que sa sensibilité me touchait beaucoup et j'ai toujours eu cette sensation d'avoir quelque chose en commun avec Jennifer, en tout cas qu'on puisse se comprendre par rapport à notre parcours.
Ça veut dire que vous avez beaucoup suivi cette première saison de la Star Academy ?
Ah, la première Starac, j'ai suivi à fond. Mais oui, parce que les premières fois sont généralement inoubliables. Et je trouvais joli de voir une étoile naître et briller comme elle.
Ma révolution.
Cette chanson, Frédéric, s'appelle « Ma Révolution ». Elle est sortie en 2004 sur le deuxième album de Jennifer.
Un titre dans lequel elle chante son bonheur d'être devenue maman et les chamboulements que ça a provoqué. Élodie Gossoin connaît bien le sujet. Elle est mère de deux paires de jumeaux.
Ça fait partie des chansons que je ne peux pas écouter sans les chanter à tue-tête et à fond et sans même verser une larme. Ça marche pas avec tous les artistes, pas avec toutes les chansons. Il y a des superstars, je les écoute, ça ne me procure rien. Jennifer, je ne peux pas l'écouter sans avoir des frissons, donc ça me fait du bien et ça me parle parce que tu vois à quel point être mère a changé sa vie et est devenu une priorité. Et je me suis toujours dit que mes enfants, quoi qu'il arrive, seraient toujours mes priorités parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai accompli de plus beau et de meilleur, quoi. Ouais.
Vos premiers enfants, puisque ce sont des jumeaux, ils sont nés en quelle année ?
Les premiers sont nés en 2007 et les derniers en 2013. Donc ouais, j'ai déjà des ados de 17 ans qui viennent d'ailleurs d'avoir le permis. Donc je vis d'autres révolutions, ils vivent les leurs en ce moment. Et je peux vous dire que je vis la révolution aussi des angoisses de la parentalité. Je ne m'étais pas préparée à avoir si peur pour eux chaque seconde. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus dur dans le rôle de parent, ouais.
Est-ce que ça, c'est l'un des vrais changements de la maternité ? C'est tout d'un coup avoir peur pour quelqu'un d'autre que soi ?
Ouais, je crois que c'est assez particulier de l'évoquer, mais moi, la réalité, et finalement, je me rends compte que je ne suis pas la seule, c'est aussi en donnant la vie, eh ben, tu prends conscience de l'échéance de ta propre mort. Donc déjà, le curseur général de la vie se déplace vers eux et plus vers ton nombril. Alors que moi-même, je fais quand même un métier, entre guillemets, avec une tribune publique, et qu'il y a une certaine forme d'égocentricité dans ce qu'on peut faire, parce que si t'as envie qu'on t'aime, t'as envie de te montrer, on va pas se mentir, c'est honnête aussi de le dire, je pense. Mais là, eh ben, ceux qui doivent briller, que tu veux voir grandir, et en même temps, faut savoir leur lâcher la main, bah, c'est tes enfants.
Vous êtes une maman comment ?
Si je devais me définir en un animal, je dirais que je suis une lionne, quoi. Faut pas toucher, mais alors pas un cheveu de mes enfants, je suis capable de tout. je suis capable de tout pour eux, vraiment de tout. Ouais, c'est absolu, quoi.
Cette chanson de Jennifer, il vous arrive de l'écouter encore ?
Ouais, je l'écoute et j'adore chanter Ma Révolution à mes deux grands. Et je leur dis, ouais, c'est pour toi, puis je me mets déjà à pleurer, quoi. Donc, bah, merci Jennifer, quoi. Enfin, Jen, comme on l'appelle. Alors, merci Jen, genre, c'est ma pote.
Révolution Jennifer. C'était donc Frédéric, le choix d'Élodie Gossuin.
Élodie Gossuin, dont on retrouve la voix dans le nouveau spectacle d'Holiday on Ice. La tournée commence vendredi à Lyon.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme.
Vous parlez des huîtres ?
Oui, on vous sert un plateau d'huîtres aujourd'hui, absolument. Vous êtes team citron ou team vinaigrette, vous ?
Ah, moi je suis plutôt citron, c'est classique.
Bon, ben voilà.
Allez, je vous rejoins tout de suite.